Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission Vous avez la parole sur Africa Radio. Ce mercredi, dans le JDA, nous attendons vos analyses et commentaires au climat politique en Côte d'Ivoire à un an de l'élection présidentielle. Pour en parler, nous aurons un invité. Il préside le Front Populaire Ivoirien depuis 2001. La justice ivoirienne le considère comme l'unique président du FPI et gérant légal du parti depuis 2015. Pascal Affine-Guessant, ancien Premier ministre, tente d'exister sur la scène politique ivoirienne. Il est candidat à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle de 2020. Alors Pascal Affine-Guessant peut-il se défaire de son image d'opposant certifié par le pouvoir? Est-il encore en mesure de rassembler le Front Populaire Ivoirien? Pour nous faire part de vos commentaires, de vos questions, appelez-nous dès maintenant le numéro à composer, que vous soyez à Abidjan, Paris ou N'Djamena, c'est le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp ou sur Facebook. Mais avant cela, vous connaissez l'émission comme de tradition. On se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Africa Radio. Je voudrais donner un avis sur la loi sur la hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers. À première vue, nous saluons grandement la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel en France a rejeté la mesure qui a été initiée par le président Macron, celle qui obligeait les étudiants étrangers à payer 2 770 euros pour la licence et 3 770 euros pour un master. Nous disons un grand merci aux sages, c'est-à-dire les membres du Conseil constitutionnel qui se sont donc orientés du côté de la raison, puisque s'ils prononçaient une décision en faveur du gouvernement qui tenait à cette mesure, franchement, ce serait catastrophique pour les étudiants étrangers dépourvus de moyens qui poursuivent leur scolarité ici en France. Donc, nous remercions les sages pour cela.
Oui, bonjour Africa numéro, enfin Africa Radio. Je vous appelle pour mon mécontentement et ça je vais toujours le dire parce que nos parents ont défendu les Français pendant la guerre mondiale et ils ont été massacrés à Dakar. Et personne ne lève le doigt pour réclamer une explication et pour que ces gens soient indemnisés. Et moi, je pense que bientôt, la société civile africaine aura l'occasion de demander des comptes au gouvernement français. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on nous indemnise parce qu'on a le droit. On ne peut pas massacrer des gens qui réclament leur dû, plus que les autres en ont plus qu'eux, alors qu'ils ont été sur le même champ de bataille. Et le champ de bataille où ils étaient, en plus on était des cobayes, puisque nous on était devant, eux ils étaient derrière. Donc j'estime qu'il va falloir qu'un jour on demande des réparations. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour Africa Radio, je suis du Congo Brazzaville. Je voudrais donner un avis sur la requête initiée par l'État ivoirien contre la libération de Gbagbo au niveau de la CPI. Franchement, je suis déçu, parce que Ouattara, c'est quelqu'un que j'ai parfois soutenu. Pour ma part, je vois en lui l'image d'un bon gestionnaire de biens publics. Mais ce qu'il a fait en préparant une requête contre la libération de Gbagbo, ça lui donne l'image d'un dictateur qui ignore le danger que court son pays après son départ. Merci, Africa.
Ma très chère Hartmann, bonjour. J'ai appris que le président Ouattara a envoyé une lettre à la CPI pour garder l'ancien président Laurent Gbagbo là-bas. Ben, moi, j'approuve cette manière de faire. Je suis très content. Voyez-vous, depuis le début de cette crise, on a demandé aux partisans, aux responsables du FPI de négocier avec le président Ouattara. En lieu et place des négociations, ils ont bombé le torse, ils ont continué à insulter le monsieur. Mais eh bien, c'est de bonne guerre. Monsieur Ouattara aussi, par ses gestes, veut montrer que lui aussi c'est un garçon. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle brave Thiers, c'est-à-dire le brave monsieur. Donc c'est de bonne guerre. Moi, je demande aux responsables du FPI de négocier, parce que tôt ou tard, l'histoire me donnera raison. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je soutiens la démarche de M. Pascal Affine-Guessant, parce que lui, il a opté pour la négociation et on a dit que c'était un traître et que c'était un vendu. Donc, tôt ou tard, c'est la négociation qui va prévaloir. Idriss, bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Alors justement, aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos analyses, commentaires au climat politique en Côte d'Ivoire à un an de l'élection présidentielle. Et nous attendons surtout les questions, vos questions à notre invité. Nous recevons ici en studio Pascal Affine-Guessant, président du Front populaire ivoirien, ancien premier ministre et président de la région de Moronou. Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, on va échanger avec les auditeurs. Mais avant cela, peut-être une réaction à l'opposition de l'État ivoirien à la levée des conditions de la libération des conditions de libération de Laurent Gbagbo. Ça vous a surpris, cette opposition?
Si, ça m'a surpris parce que malgré tout, nous pensions que le président Alassane Ouattara était dans une dynamique de réconciliation nationale après l'adoption de l'ordonnance d'amnistie en fin d'année 2018. Et c'est une décision que nous condamnons. Le Front populaire ivoirien a d'ailleurs publié une déclaration dans ce sens, parce qu'elle va à l'encontre du processus de réconciliation nationale. À un an des élections, elle va envenimer la situation sociopolitique, et tout cela ne contribue pas à l'apaisement, à la décrispation, à la stabilité du pays.
Est-ce que vous pensez, est-ce que finalement aussi cette opposition éloigne un peu plus la possibilité d'un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire?
Évidemment. Évidemment, cela ne fait que compliquer davantage, je dirais, le processus de retour du président Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous lançons des appels à nos amis et à nos camarades de la dissidence pour dire que tout cela devait nous interpeller sur le fait qu'il faut se rassembler, qu'il faut sortir de la division, parce que c'est ensemble, unis, solidaires et dans une dynamique de libération de la Côte d'Ivoire, que nous pourrons mettre fin à toutes ces situations.
Quand vous parliez, nos amis, de la dissidence, vous parlez bien sûr de ce qu'on appelle l'autre aile du Front populaire ivoirien, dont le président officiel est, selon eux, Laurent Gbagbo, et dont le secrétaire général est Assoua Adou. Une dernière question avant d'écouter nos auditeurs. Une réaction, pardon, je vais y arriver, à l'annonce de Guillaume Soro, c'est désormais officiel, l'ancien président de l'Assemblée nationale se présentera à l'élection présidentielle de 2020. Que pensez-vous de sa candidature?
Oh, je pense que c'est une candidature qui peut contribuer à, je dirais, à ouvrir le jeu politique, à ouvrir les élections de 2020, à créer les conditions de l'alternance. Et évidemment, d'abord parce que nous serons nombreux donc à défendre des élections justes et transparentes, mais ensuite parce que c'est une candidature qui garantira qu'il faut nécessairement aller à un deuxième tour. Et je pense qu'à ce moment-là, toute l'opposition pourrait se rassembler derrière le candidat le mieux placé afin de mettre fin à ce que nous assistons à l'heure actuelle et de faire l'alternance.
Donc vous accueillez à bras ouverts Guillaume Soro comme l'un des vôtres dans l'opposition, si je peux me
dire. Il est dans l'opposition, de fait, à partir du moment qu'il a quitté le RHDP.
C'est très clair. Allez, on donne la parole aux auditeurs, on commence tout de suite. Ils sont nombreux à vouloir vous interpeller. On va peut-être commencer par Diez. Voilà, Diez est un auditeur régulier d'Africa Radio. Diez nous confiait la dernière fois qu'il faisait des petites vidéos sur YouTube pour parler de la situation politique en Côte d'Ivoire. Diez, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphanie.
Alors, Diez, votre question à Pascal Affine-Guessant, il vous écoute.
Oui, merci. Bonjour, Monsieur Pascal Affine-Guessant.
Bonjour.
Je m'appelle Diaz, comme vous l'avez entendu.
C'est ça.
J'ai au moins trois questions, mais je ne suis pas seul. Je ne vais poser que deux. Le président Laurent Gbagbo, vous avez dit clairement que vous avez tourné sa page. Si j'ai bien compris.
Non.
Mais pourquoi?
Ce n'est pas de moi. C'est de mes adversaires, mais pas de moi.
Bon, Pascal Afikessan vous dit qu'il n'a pas tourné la page de Laurent Gbagbo. Bon, ah oui. Cela dit, on peut revenir sur les tensions. Vous l'avez dit la dernière fois, ce n'est pas lui le président du FPI, vous avez déclaré.
Ça, c'est tout à fait évident. Voilà. Que ce n'est pas lui le président du FPI, mais tourner sa page, je ne sais pas comment on tourne la page d'un homme politique.
On va laisser écouter Diaz et puis vous répondrez, okay. Pascal Afikessan. Allez, Diaz, allez-y.
D'accord, ok. Ben, au fait, vous êtes président de FPI. Depuis que vous êtes député et président de FPI, vous n'êtes jamais, je n'ai pas appris que vous êtes parti parler de la paix dans la région, c'est-à-dire que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi cela?
Votre deuxième question, Diaz?
Ma deuxième question, est-ce que M. Pascal Afikessan a sa carte de CME?
CME, c'est quoi?
CME, c'est la carte de CMUC, au fait.
Pascal Afikessan, vous êtes m'éclairer, c'est quoi CME?
Oui, je crois que c'est la... maladie universelle, quelque chose.
CMU, la couverture maladie universelle, c'est maladie ça, la carte de CMU.
Voilà cette blague.
D'accord, bon, bah.
Est-ce qu'il a sa carte?
On va vous demander, vous avez votre carte de CMU, mon cher Pascal Afikessan?
Je n'ai pas encore de carte de CMU. Je crois que le gouvernement est en train de mener le processus, mais personnellement, je n'ai pas encore de carte de CMU.
Bon, voilà, vous n'êtes pas malade,
je ne sais pas pourquoi ça intéresse l'auditeur, mais
en tout cas, je vais lui dire que je n'ai pas de carte de CMU. Pourquoi vous demandez ça, Diaz?
Je demande ça parce que. Le président de la République a sa carte de CME.
Ah, bon.
Et quelles sont les conditions, comme il vient de le dire là, enfin, je le respecte, hein, c'est mon pote depuis, hein, mais maintenant là, je veux savoir s'il n'a pas la carte de CME et pourquoi il ne l'a pas.
Bah, bonne question. Cela dit, on pourra peut-être. On va recevoir des gens du RHDP la semaine prochaine. On va peut-être leur demander à eux. Ils seront peut-être plus au courant. Alors, la question de la paix. Diaz trouve qu'on ne vous a pas assez entendu sur cette question de la paix.
Mais
et
je suis celui qui est le premier à parler du processus de paix et de réconciliation nationale depuis ma sortie de prison en août 2013. Si M. Diaz se rappelle, j'ai même proposé les États généraux de la République. Comme mécanisme pour mettre fin à tout ce que nous avons vécu, pour réconcilier les Ivoiriens, pour reformer le cadre juridique institutionnel de la vie nationale. J'ai fait des tournées à travers le pays, à l'ouest, un peu partout, et donc je continue de parler de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, s'il y a des hommes politiques qui parlent de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, j'en fais partie, et je peux même considérer que je suis l'un des tout premiers. Et donc, et je continue dans ce sens. Et ma candidature en 2020 sera justement bâtie autour de la question de la réconciliation et de la réforme de l'État, etc., etc.
C'est très clair. On va parler de candidature.
Pourquoi
allez-y.
La carte des CMU, il faut d'abord se faire enrôler. Je crois que c'est fait. Mais la question pourrait être posée à un représentant du gouvernement si l'occasion est donnée d'écouter un représentant du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui met
en fait, finalement, j'ai peut-être compris ce que vous voulez dire, Diaz, puisque vous venez de dire qu'il faut être enrôlé pour avoir la carte de CMU. Finalement, il y a un lien entre le fichier électoral et les bénéficiaires de cette couverture maladie universelle, c'est ça?
Oh, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a
un lien. En tout cas, il faut être électeur pour bénéficier de cette CMU.
Non, tous les Ivoiriens sont concernés. D'accord. D'après ce qu'on m'a dit, tous les Ivoiriens, même toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, sont concernées par cette carte.
D'ailleurs, hein, s'il y a des autres auditeurs du côté d'Abidjan qui ont des questions sur ce sujet, ou même qui ont des questions générales, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Je vais vous lire un petit message de Sansi, qui est plutôt sympa d'ailleurs avec vous. Sansi nous dit bonjour, c'est le seul homme politique qui a compris la politique, on parle de vous, qui a compris la politique ivoirienne. Il ne faut jamais faire la politique de la chaise vide. Bravo à vous, monsieur Pascal Afikessan, nous dit Sansi. On va écouter Ibrahim qui va poser des questions sur les candidatures, justement. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour aussi monsieur Pascal Afikessan.
Bonjour.
Vraiment, je suis tellement heureux de vous entendre aujourd'hui parce que vraiment, nous les Ivoiriens, nous étions toujours les mêmes pères et mêmes mères. Mais avec la division actuelle, nous devons faire très attention de pouvoir nous unir quand on veut dire la paix privée de vous. Et nous, c'est nous qui formons le gouvernement. Le gouvernement a un nom, mais c'est la population qui fait qu'un gouvernement peut bien gérer son pays. Donc, ce que moi je vous demande, avec la patience que vous aviez, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes patient. Vous réclamez la libération de Laurent Gbagbo très très longtemps, mais les gens n'arrivent pas à vous cautionner. Moi, à mon avis, la place que vous récupérez aujourd'hui dans SPI, si M. Laurent Gbagbo est de retour, ses partisans ne vous accepteront pas. Et les gens, ils pensent que c'est un blocage du président de la République. Non. Vous venez de dire que vous étiez en prison et vous êtes libéré. Ça, c'était dans son pouvoir. Mais le pouvoir de M. Laurent Gbagbo n'est pas dans le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Vous saviez ce qui s'est passé. Quand il y a une guerre, il y a un coupable. Tout le monde ne peut pas être le coupable. Si un coupable a été désigné par le tribunal pénal, c'est que c'est avec ce type...
Est-ce que vous posez votre question, Ibrahim, s'il vous plaît?
Oui, ce que je vais poser à M. Pascal Afinguessa, excusez-moi de ma manière de vous poser la question. Vous êtes sûr d'être candidat de FPI la prochaine élection?
Ah! Excellente question. Alors moi, je me souviens bien, Pascal Afinguessa, quand vous avez été déclaré, quand vous avez déclaré votre candidature à l'investiture du FPI, et vous avez toujours dit, excusez-moi de répondre à votre place, hein, que si Laurent Gbagbo était candidat, vous ne le sauriez pas. C'est très clair.
C'est ça. Je crois que je voudrais dire à M. Ibrahim qu'effectivement, je suis candidat à la candidature parce que je veux respecter la volonté de nos militants, puisque ce sont les militants qui désignent le candidat du parti. Donc je ne peux pas affirmer tout de go et de façon unilatérale que je suis le candidat du parti. Mais je serai candidat, je le soumettrai cette candidature au congrès du parti, et si le congrès l'accepte, je serai le candidat. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué, nous sommes dans une dynamique unitaire. Si le président Gbagbo est libre de toute poursuite, qu'il est en Côte d'Ivoire, qu'il est éligible, et qu'il manifeste sa volonté d'être candidat.
Ça fait beaucoup de si, hein.
Oui, il y a beaucoup de si, parce que évidemment la situation actuelle n'est pas très très simple. Et donc nous rangerons tous derrière lui. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Mais dans tous les cas, s'il n'est pas candidat, s'il n'est pas présent en Côte d'Ivoire, je suis le candidat du Front Populaire. Je suis candidat à la candidature du Front Populaire ivoirien. Et c'est ce schéma que je m'évertue à vendre à tous nos militants, y compris les dissidents, pour leur dire qu'il faut que nous ayons un plan B, un plan A et un plan B, que nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il faut qu'il y ait une alternative à la candidature du président Gbagbo.
Pour désigner un candidat, vous l'avez dit, il faut un congrès. Alors, il me
mais
semble
que je voudrais ensuite dire à M. Ibrahim que la CPI a acquitté le président Gbagbo à l'heure actuelle, puisqu'il dit que la CPI a désigné un coupable. Je voudrais rectifier que la CPI a acquitté le président Gbagbo et qu'à l'heure actuelle, ce sont des manœuvres du procureur de la CPI et des autorités ivoiriennes pour maintenir le président Gbagbo le plus longtemps possible hors de Côte d'Ivoire. Donc, il faut être clair, les charges qui ont été portées contre le président Gbagbo n'ont pas été prouvées. À l'heure actuelle, il est innocent, il a été acquitté, mais les autorités du parquet de la Cour pénale essaient désespérément de tout faire pour essayer d'annuler cette décision d'acquittement et donc, quelque sorte, de prolonger inutilement un procès qui n'apporte rien à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire.
Alors, la question du congrès du FPI, il me semble que depuis 2014, en 2014, vous aviez annoncé un congrès qui a été reporté.
C'est ça.
Depuis, les instances n'ont toujours pas été renouvelées. Quand vous parlez d'investiture...
Si, le congrès s'est tenu les 28 et 29 juillet 2018. Et j'ai été reconduit à la tête du parti pour 5 ans.
Autant pour moi. Merci, Pascal. Une question. Quand vous parlez d'investiture à la candidature FPI, est-ce que ça signifie que le parti va organiser des primaires, par exemple?
Par exemple, évidemment, le parti va convoquer un congrès pour le choix du candidat. Et à cette occasion, tous les militants qui souhaitent être candidats, et y compris même ceux qui sont dans la dissidence, puisque pour le moment, nous n'avons exclu personne, et donc ce sont des positions politiques, tous ceux qui souhaitent être candidats pourront l'exprimer et nous choisirons ensemble. Et j'espère que ce congrès pourrait être une occasion de rassemblement, de réconciliation. Simone Gbagbo, si elle souhaite être candidat, peut venir au congrès. Et nous pouvons organiser ensemble ce congrès et ça pourrait être un congrès unitaire pour désigner le candidat. Et j'ai toujours affirmé que personnellement, je suis prêt à m'aligner derrière la personnalité que le parti, que le congrès du parti aura choisi, même si ce n'est pas moi personnellement.
Alors justement, il y a un auditeur qui va vous parler dans quelques instants de Simone Gbagbo. Je vous lis quelques messages qu'on reçoit sur WhatsApp. Il y a Angèle qui salue le fait que hier, vous avez passé la nuit à répondre aux questions des cyberactivistes Gbagbo ou Rouyen. C'est bien ça, voilà. Oui, il vous encourage hein, à être plus présent sur les réseaux sociaux hein, pour communiquer sa stratégie. Bon, il y a Juan qui nous fait un petit tacle au président Ouattara qui dit bonjour, hein, c'est Juan. Donc votre président Alassane Ouattara n'est plus économiste de Dieu lui-même, il est devenu juge à la CPI. Kwame, bonjour. Ah, Kwame, bonjour.
Bonjour Madame Ackman.
Bonjour Kwame, merci de votre patience. Vous vouliez poser une question sur le cas Simone Gbagbo.
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur le Président Afi.
Bonjour.
Je me nomme Kwame. Voilà, tu sais...
Oui, je vois.
Vous connaissez, pardon.
Nous sommes de la même génération.
C'est ça.
Donc, moi, je voulais te poser une ou deux questions.
Allez-y.
Moi, je voulais savoir, depuis votre sortie de prison, quelles sont les démarches que vous avez pu mener vers Mme Simone et Yves Gbagbo pour vous réconcilier et réunir les gens de FPI?
Oui.
Et de deux... Voici la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. J'ai entendu un auditeur tout à l'heure qui s'appelle Idriss. Lui, il est content que Ouattara a pu faire une lettre pour bloquer le président là-bas. Pourtant, dans la constitution ivoirienne, c'est dit qu'un fils ivoirien ne doit pas être exilé.
C'est ça.
Et lui, quand il était à l'opposition, en exil, le président Gbagbo a pris l'avion pour venir le chercher. Et lui, à son tour, maintenant, il envoie un courrier à la CPI pour dire qu'ils n'ont qu'à le maintenir toujours là-bas. Oh. Est-ce que vous êtes vraiment un fils du pays? Ivoirien aime son frère ivoirien. Nous, on ne se fait pas la guerre, n'est pas l'âme. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Est-ce que vous voyez que vraiment la réconciliation est totale?
Bon.
Est-ce que ça peut nous conduire à une autre... Parce que les gens de la diaspora sont en train de se mobiliser. Ils vont tous descendre à Abidjan, hein? Et peut-être il y aura vraiment une guerre civile.
La question est importante. On va laisser Pascal Affine-Guessant répondre. Voilà. Merci Kwame. Alors bon, première question sur le cas hein, Simone et Yves Gbagbo. Est-ce que vous échangez avec elle?
Qu'est-ce que
vous avez fait depuis votre libération?
Pas directement. J'ai depuis sa sortie de prison formulé le désir de la rencontrer. Mais étant donné qu'elle a fait le choix de basculer dans la dissidence, jusqu'à ce jour, elle n'a pas encore accepté de me rencontrer.
Une dissidence dont elle était un peu écartée aussi
Maintenant, évidemment, effectivement, depuis un certain temps, cette même dissidence est divisée en deux, entre les anti-Simone et les pro-Simone. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, elle est pour le moment dans ce camp, et au nom de ce camp, elle a refusé, elle n'a pas manifesté jusque-là, je dirais, l'intention de me rencontrer. Mais elle rencontre quand même certains de mes collaborateurs, certains des membres de la direction du parti. Cela signifie qu'elle n'est pas opposée. Mais je crois qu'elle est prise en étau entre donc sa volonté d'aller à la paix, à la réconciliation et même à l'unité du parti et son allégeance, je dirais, à la dissidence. Et donc, elle est bloquée. Et nous espérons que, avec le temps, la situation va être débloquée et que nous pourrions donc nous rencontrer. Donc, c'est à ce jour moi qui manifeste l'intention d'aller vers les dissidents, vers les frondeurs, comme on le dit. Et pour le moment, nous rencontrons, disons, un mur d'incompréhension. Mais nous espérons que tout cela pourra évoluer. Alors maintenant,
la deuxième partie de la question,
qu'est-ce que je pense de la décision de Monsieur Ouattara? Je l'ai indiqué.
Alors moi, je vais reformuler la question. Kwame disait, finalement, nous tous de la diaspora, on est prêts à descendre sur Abidjan. Il y a eu un rapport récemment du Centre de prévention de génocide qui alerte sur un risque élevé de violence durant cette prochaine élection présidentielle. On a vu comment celle de 2010 s'est terminée. Elle s'est terminée en une guerre civile, il faut le dire les mots. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que la prochaine élection présidentielle se passe dans le calme et l'apaisement, selon vous?
Non, on ne peut pas dire que toutes les conditions sont réunies. Mais il nous appartient, leader politique, d'agir de manière à ce que les conditions soient réunies. Personnellement, je ne souhaite pas une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire. Et je me battrai de toutes mes forces pour éviter cela. Et je entreprendrai toutes les démarches qu'il faut pour ramener le jeu politique en Côte d'Ivoire dans un cadre apaisé,
Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que, selon vous, c'est une
nouvelle guerre? Il faut y aller. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à savoir si c'est possible ou c'est pas possible. Il faut agir, il faut s'engager, il faut militer, il faut prévenir, il faut anticiper, il faut éviter ce que M. Kwame craint, c'est-à-dire la guerre civile. Et donc, la diaspora doit se mobiliser, mais je souhaite qu'elle se mobilise dans le sens d'amener les uns et les autres à une table de négociation pour pouvoir aplanir les divergences, régler les problèmes qui se posent à l'heure actuelle et faire en sorte que les élections en 2020 se tiennent dans la paix, dans la stabilité. En tout état de cause, il faut savoir que si M. Ouattara n'est pas un adepte de la réconciliation, il faut trouver les moyens démocratiques de le faire partir, les moyens pacifiques de faire partir son équipe, afin que puisse s'établir en Côte d'Ivoire un gouvernement ouvert à la réconciliation qui va rassembler tous les fils de ce pays et faire en sorte que nous tournions la page de toutes les violences que nous avons vécues ces 20 dernières années. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit ma candidature en 2020.
Que pensez-vous d'une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara? Le RHDP laisse planer le doute.
Mais nous avons à plusieurs reprises dit que M. Ouattara n'est pas concerné par les élections de 2020. La Constitution l'en empêche. Lui-même, à plusieurs occasions, a dit qu'il n'était pas concerné, qu'il ne faut pas passer le flambeau à une nouvelle génération. Donc je ne vois pas M. Ouattara candidat en 2020.
C'est très clair. On va se diriger à Conakry. Écoutez, Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour, sœur Stéphanie, et bonjour à votre invité du jour, monsieur Pascal Afenguesson.
Bonjour.
Bonjour. J'ai juste trois questions à vous
Alors,
poser.
Alors, rapidement, Tierno, juste une, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste moins de cinq minutes.
Ok, juste trois questions. Premièrement, j'aimerais savoir comment est-ce que possible, monsieur Pascal, n'a pas été tellement inquiété après la course électorale, alors que vous êtes le deuxième ou le troisième personnalité DFPI. Deuxième question, par quelle stratégie vous allez essayer de laver l'image de votre parti en sachant que dans la sous-région, les autres ont carrément échoué de relever leur parti après la chute de leurs leaders respectifs. C'est le cas au Burkina avec CDP, au Sénégal avec PS de Maître Blaouad et par le passé ici même en Guinée avec P2E, RDA. Et c'est le cas dans plusieurs pays africains. Troisième question, comment est-ce que possible que des milliers d'Ivoiriens perdent la vie alors que la CPI, après plusieurs années, nous dit que personne n'est coupable et il acquitte le présumé coupable? Comment est-ce que possible
qu'on va laisser
les victimes sans avoir de vrais coupables?
C'est très clair, merci Tierno. On va laisser Pascal Afenguesson réagir. Alors, je n'ai pas pu noter toutes les questions, mais je crois que vous les avez notées.
Oui. Bon, la première question, c'est, je crois, liée à la contestation, c'est-à-dire la crise à l'intérieur du FPI.
Comment être candidat sans l'ensemble du FPI derrière vous, si j'ai bien compris?
Oui, mais je crois que... il faut savoir que dans tous les cas de figure, ce sont les Ivoiriens qui votent. Et notre action doit être principalement dirigée vers les Ivoiriens et non vers une catégorie de l'élite politique qui peut être complètement dépassée par la situation du pays, qui peut être complètement à côté des aspirations des Ivoiriens et qui travaille à contre-courant de l'évolution du pays. Aujourd'hui, il y a une bonne partie de la classe politique ivoirienne qui est disqualifiée. Et si vous les écoutez, si vous rentrez dans leur jeu, si vous vous engagez dans la voie qu'ils vous prennent, vous vous perdez. Les Ivoiriens veulent autre chose. Les Ivoiriens veulent la paix, ils veulent la stabilité du pays, ils veulent le progrès social. Et c'est par rapport à ces préoccupations qu'il faut s'inscrire. Donc, il faut regarder les préoccupations de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, et travailler à cela, parce que c'est eux qui, en dernière instance, vont décider en 2020. C'est pourquoi nous n'écoutons pas les dissidents qui veulent que nous restions dans le passé et que nous nous inscrivons dans une logique d'avenir, dans une logique de progrès et de paix pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, quelle est la stratégie pour améliorer l'image? Est-ce que le Front populaire ivoirien ne va pas connaître le même sort que certains partis de gauche
qui ont
disparu après? C'est une menace, c'est un risque important. Et c'est d'ailleurs par rapport à ce risque-là que nous sommes dans la logique de l'adaptation.
Est-ce parce que vous que dites à Ouadou, il faut s'unir ou périr?
Non, pas non. Forcément. On peut s'unir, mais on peut avancer sans forcément que nous ayons l'unité. Le tout, c'est de reconstruire un parti. De reconstruire un parti avec des gens de progrès, des gens qui veulent la paix, l'unité du parti. Et aujourd'hui, il faut avoir la capacité de s'ouvrir vers des frustrés du PDCI-RDA, vers des insatisfaits du RDM, pour construire un parti nouveau, dans une dynamique nouvelle, qui a une autre vision de l'avenir, qui s'inscrit dans une dynamique de paix et de réconciliation pour le pays. Donc c'est ce défi-là qu'il faut réussir. Si nous réussissons ce défi, le FPI vivra et va reconquérir le pouvoir d'État.
C'est très clair. Alors on va prendre un dernier auditeur, je m'excuse auprès de Camara, mais je pense qu'on a posé la question à Camara, vous lui posez la question, les faits que son parti soit divisé, est-ce que c'est crédible pour la candidature? On va écouter Claudel qui a une question très précise et je la disais d'ailleurs un peu en introduction. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour, oui. Bonjour, monsieur Pascal Martin-Guessant.
Bonjour.
Oui, on se connaît.
Alors, voilà. Il me reste moins de deux minutes, Claudel, s'il vous plaît. Posez votre question telle qu'elle est écrite sur le standard et comme ça, monsieur.
C'est dommage. Oui, c'est dommage. Moi, je pense que monsieur Pascal Martin-Guessant joue de la malhonnêteté.
C'était pas une question, ça, Claudel.
Non, laissez-le.
Je viens à la question.
Allez-y, je vois le temps défiler. Claudel,
j'ai dit, le président Assimi Guessant n'est pas honnête quand il dit qu'il est dans la mouvance de réconcilier les uns les autres. Monsieur Pascal Assimi Guessant joue avec le pouvoir. Voilà. Voilà un pouvoir pour lequel, disons que la Cour européenne, par exemple, la Cour africaine plutôt, a dénoncé cette CEI, par exemple. Lui, il est partant. Il a laissé un partisan là-dedans. Deuxième, dernière question que je peux poser, parce que j'ai pas assez de temps.
Allez-y, oui, il reste.
Il faut pas jouer avec les Ivoiriens. Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il a fait avorter le congrès, quand il a fait annuler le congrès.
De 2014.
Voilà, tout à fait. J'y étais, j'ai payé mon transport, je suis parti. Ce monsieur a fait annuler ce congrès-là. Il n'a jamais eu. Donc voilà.
Mais, on parlait de lui. Merci Claudel. Alors je suis désolée, c'est parce qu'il reste juste une minute et Monsieur Pascal Affine-Guessant, vous allez quand même répondre. Et c'est ce que disait Claudel. Voilà, dit vous faites le jeu du pouvoir. Vous êtes le seul dans l'opposition à avoir accepté la CEI. Et voilà, comment est-ce que vous pouvez vous défaire de cette image cautionnée d'opposant cautionné par le pouvoir?
Mais je suis un opposant. Mais toutes les oppositions n'ont pas la même démarche et le même style.
Et des opposants qu'on arrête ou qu'on conteste.
Non, mais évidemment, ils peuvent contester. Mais moi, je m'inscris dans une dynamique de paix en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas pour mettre le feu au pays à nouveau.
Donc, vous n'êtes pas cautionné par le pouvoir.
Je ne suis pas cautionné. La preuve, c'est que nous négocions. Si nous sommes cautionnés par le pouvoir, pourquoi nous allons négocier? Alors, monsieur Claudel parle de la CEI. Mais la CEI, nous avons tous demandé la réforme de la CEI. Nous avons une possibilité de négocier. Certains refusent parce qu'ils ont un agenda caché. Moi, je n'ai pas d'agenda. La négociation
donc
est le moyen.
Le FPI va siéger à la CEI?
Pardon?
Le FPI siégera à la CEI?
Mais bien sûr, nous avons un poste de vice-président à la CEI. Nous sommes dans la cabine de pilotage. Nous allons contrôler l'évolution de cette CEI.
Merci, monsieur.
Et nous allons donc utiliser cette CEI pour arrivé au pouvoir en 2020.
Merci beaucoup Pascal Affine-Guessant. Je rappelle que vous êtes président du Front Populaire Ivoirien, ancien Premier ministre. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à conduire le débat sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio. Prenez soin de vous, à bientôt.